Chapitre 6. L'armée secrète des salamandres.
Burana !
Hurla Hervael. Aux prises avec une salamandre qui lui résistait, le roi dragon avait tourné la tête au cri de Magda et s'était figé. Son hésitation faillit lui coûter très cher. Il évita de justesse une lourde flèche qui visait ses yeux. Que faire ? Plonger au cœur de la forteresse de Givre était bien trop dangereux. Il ne savait pas ce qui y était tapis. Conscient de son impuissance à secourir le dragonneau, Hervael reprit le combat. Il n'oubliait pas qu'il devait donner l'exemple et qu'il ne pouvait abandonner les siens au milieu d'une bataille aussi incertaine. Il commençait à être désespéré. Non seulement les dragons ne parvenaient pas à prendre le dessus sur les salamandres, mais en plus, aucun d'entre eux n'avait localisé la porte qui aurait permis aux hommes d'investir la cité glacée. Même d'en haut, rien n'était visible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il donna le signal aux guerriers humains de donner l'assaut. Les dragons avaient besoin d'aide, et tant pis s'ils ignoraient encore comment envahir la forteresse de Givre. Tractés par les chevaux, les catapultes furent amenées à distance de tir. Les soldats d'Arceau avaient commencé à découper des sortes de boulets de glace qu'ils commencèrent à projeter contre les murailles. Sans le moindre résultat. Au lieu de grignoter le mur d'enceinte, les projectiles difformes y restèrent collés. Cet échec, loin de décourager Arceau, lui donna une idée. Il réunit les responsables des catapultes et leur expliqua son plan. Ils se mirent aussitôt au travail et réalisèrent, après quelques réglages, une sorte d'escalier grossier qui montait jusqu'au sommet de la forteresse de Givre et vers lequel les hommes se ruèrent. Ils commencèrent à l'escalader en s'aidant les uns les autres et en utilisant des cordes pour franchir les passages les plus périlleux. Occupés par les dragons, les salamandres, peu nombreuses, ne pouvaient freiner leur progression. Mais à la seconde où les assaillants prirent pied sur les remparts, débuta un incroyable phénomène. Les parois de la place forte semblèrent soudain s'effriter, libérant des espèces de silhouettes blanchâtres, grandes et fines, qui commencèrent à s'animer. Ces terribles géants de glace se mirent alors à balayer les hommes avec leurs bras démesurés, dont les doigts ressemblaient à des lames d'épée. Ils prirent rapidement le dessus et s'empressèrent de détruire l'escalier de fortune imaginé par Arceau. Voyant cela, les dragons abandonnèrent leur duel et vinrent à leur rescousse. Tournoyant au-dessus des géants de neige, ils réussirent à en abattre quelques-uns en faisant fondre leur tête à l'aide de puissantes flammes. Les immenses créatures tombaient sans crier, en écrasant les combattants et en projetant tout autour d'elles d'aveuglants nuages de givre. La bataille, brouillonne et confuse, aurait pu s'éterniser et basculer du côté des forces d'Aurore. Hélas, il n'en fut rien, car un soudain grondement de tonnerre traversa l'air enfumé, figeant tous les combattants. Une ombre blanche déchira alors le ciel, telle une apparition magique. Hervael reconnut la forme aperçue au cœur de l'hiver maléfique. C'était elle qui avait assassiné Brasier et enlevé Isilde. Ce n'était plus simplement une ombre vague et fuyante, mais un immense et redoutable dragon de glace qui lui rappelait vaguement quelqu'un. Un dragon qu'il avait connu autrefois, mais qui avait trouvé une fin horrible, englouti au fond de l'océan lumineux. Avant même que quiconque ait le temps de réagir, un dragon tomba, transpercé par un long dard glacé. Hervael se rua vers son adversaire, mais le dragon de glace refusa le combat et le contourna afin d'abattre une jeune dragonne qui ne réagit pas assez vite pour lui échapper. Au sol, les géants de neige recommencèrent à pourchasser les hommes et à les faucher comme de vulgaires quilles en bois, à renverser leurs catapultes et à les piétiner. Du haut des remparts, les salamandres joignirent leurs efforts aux dévastations du dragon de glace en visant exclusivement les créatures ailées. Le fragile avantage de l'armée du royaume d'Organ venait de voler en éclats. Pour arrêter l'hémorragie, Arso fut contraint de battre en retraite.
Repliez-vous ! Tous au campement !
Les hommes se retirèrent dans le désordre le plus complet, abandonnant sur place leurs machines de guerre. Les dragons se joignirent à eux, la mort dans l'âme. Ils se regroupèrent dans leur camp, les yeux tournés vers la forteresse de Givre qui offrait un spectacle aussi grandiose que démoralisant. Les géants de neige formaient une ligne infranchissable. Au-dessus d'eux, le dragon de glace décrivait des cercles de plus en plus larges, s'apprêtant sans doute à fondre sur ce qu'il restait de l'armada d'Aurore.
« Tout est perdu !»
gargouilla Arso, la gorge barrée par une vilaine estafilade.
« Il ne nous reste plus qu'à rentrer à Organti. »
Les visages des soldats reflétaient l'épuisement et le découragement.
« Non !»
trancha Ervael.
« Isilde est là, derrière ces murs, je le sens. Nous ne bougerons pas d'ici et nous nous battrons tant que subsistera en nous un souffle de vie. »
Le roi dragon songeait à Urana et à Magda. Que leur était-il arrivé? Avaient-ils survécu à leurs blessures? Malgré la brutalité de leur chute, Ervael s'entêtait à penser qu'ils étaient toujours vivants, quelque part, dans la forteresse de Givre, et qu'ils pourraient bien être la clé de ce combat.